improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir tout le monde, nous sommes le mercredi 20 juin. 20 juin, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? 20 octobre, j'ai encore envie d'être au soleil, j'ai envie d'être à côté du soleil, j'ai envie de profiter encore, mais malheureusement, c'est pas possible, il pleut, il fait pas beau, il fait nuageux. Bon, il est 19h08, on est dans Improbox Radio, on est sur TSF, on est en direct. C'est la saison 2, seconde émission de l'année, c'est l'Improbox numéro 11 en réalité, et cette émission va être stratosphérique. D'où ce manque de soleil. On va voyager dans le temps, dans l'espace et surtout dans nos rêves de gosse. Quel petit gars n'a pas au moins une fois dans sa vie rêvé de devenir astronaute? Notre invité est en quelque sorte le Thomas Pesquet des années 90, mais lui, mon invité, il a fait ça il y a 30 ans. Incroyable chemin donc de ce virtuose du cosmos avec qui nous allons passer une heure à parler de tout et de rien, et puis surtout d'improvisation. Cet invité, c'est Monsieur Jean-François Clairvoy. Et comme vous le savez, à chaque émission, nous avons aussi le privilège d'avoir un invité musicien. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le bassiste et chanteur Étienne Mbappé à l'occasion de la sortie de Time Will Tell, sortie le 15 octobre. Musicien tout-terrain, Étienne Mbappé a collaboré avec Ray Charles, Joe Zawinul, Salif Keita, Jacques Higelin, encore d'autres, hein, John McLaughlin, Jimmy Herring. 4 albums solo. Ce 5e album, je me trompe pas, c'est bien le 5e, est absolument succulent de rythme et de son venu d'un peu partout dans le monde. Je suis ravi de vous recevoir, Étienne Mbappé. Vous êtes accompagné par deux musiciens extraordinaires que sont Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt à la batterie. Et puis à la fin de cette émission, il y aura désormais cette désormais tradition, ce fameux moment de magie, cette rencontre entre vous deux, Étienne Mbappé et Jean-François Clairvoy, le musicien et l'astronaute. Deux magiciens, une rencontre, ça sera également en direct ici sur TSF, comme chaque troisième mercredi du mois depuis l'année dernière, en fin d'émission, donc cette rencontre complètement improbable entre vous pour une performance d'improvisation. Alors, maintenant c'est parti, on démarre l'émission. J'aimerais Jean-François Clairvoy que vous écoutiez ces quelques notes et que vous me disiez si cela vous rappelle quelque chose. Attention, il y a un petit piège. Piège. Hein. Ah. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, je vous ai dit, il y a un piège.
Non, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà entendu.
Ah oui, c'est marrant, hein. Alors, c'est une mélodie que vous connaissez très bien, parce qu'elle vous a accompagné lors d'une mission, la mission Discovery en 99. Mais c'est une version jazz du Requiem de Mozart en ré mineur, Lacrimosa, interprétée par Maximilian Geller, un saxophoniste suisse. J'ai envie de vous poser une première question. Lors de votre mission en 99, à la station spatiale, vous étiez plusieurs, et vous avez pris avec vous du foie gras et du Mozart, le Requiem. Alors, je sais que vous étiez plusieurs à décider, mais pourquoi du foie gras et pourquoi du Mozart? J'avais envie de commencer l'émission comme ça.
En fait, pour des raisons psychologiques, la NASA nous propose, en plus du menu officiel qui donne les bons niveaux de calories, de minéraux, de fer, potassium, de prendre des plats bonus pour se faire plaisir, qui peuvent être des plats industriels ou faits maison, à condition qu'ils passent des tests de salubrité convenables. Et en fait, je me suis nourri presque qu'exclusivement
de foie gras,
des plats bonus.
Ah, d'accord.
Le foie gras, le cassoulet, le petit salé aux lentilles vertes du puits, le confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe, etc.
Ils étaient au courant?
Oui, bien sûr, c'est officiel. Et nous sommes réveillés tous les matins par des musiques qu'en général, les familles des astronautes choisissent à notre insu. Et donc, on ne sait pas à l'avance par quoi on va être réveillé, à condition qu'on dorme tous en même temps, ce qui n'était pas le cas de mon premier rôle, puisqu'on tournait au 3-8, mais... lors de ce troisième vol, des musiques se produisent soudainement dans les haut-parleurs de la cabine pour nous réveiller après nos 8 heures censées être 8 heures de sommeil. Et effectivement, il y a ces musiques, il y a toutes sortes de musiques. Alors, chaque matin, c'est...
La surprise.
Voilà, la surprise.
Parce que finalement, c'est un peu l'ancêtre des playlists Spotify, Deezer et compagnie.
Oui.
On nous balance des sons qu'on ne connaît pas forcément, mais pour nous faire découvrir des choses. Et donc, il y avait Mozart, alors. Il y avait Mozart.
Oui, Mozart, enfin, plusieurs musiques de Vivaldi, de Dvorak. Il y avait du Patricia Cass, du Vangelis, des Elton John,
un peu de tout, quoi.
Gainsbourg.
Pas de jazz, tiens.
Si, il y avait du jazz aussi, oui.
Ah, bon, vous ne souvenez pas de la playlist?
Non,
c'est trop.
Mais en fait, chacun amène un peu ses musiques. La famille donne au Capcom. Capcom, c'est le diminutif de Capsule Communicator. C'est un astronaute au sol qui est la seule personne autorisée à converser avec ceux qui sont en orbite. Parce qu'il sait ce qu'on fait à bord. Il connaît notre métier. Et lui a le droit de choisir aussi des musiques surprises auxquelles on ne s'attend pas, qu'on n'a pas mis sur une liste au départ.
Waouh. Bon, écoutez, ben voilà, on va parler avec vous de cette vie à quelques kilomètres de la planète Terre. Mais on va enchaîner tout de suite par de la musique, évidemment. On a cette chance d'avoir Étienne Mbappé, accompagné par Christophe Cravero au piano et Johann Schmidt, qui vont nous jouer No Woman, No Smile, un extrait de cet album Time Will Tell. Étienne Mbappé en direct sur TSF. Thank you. No Woman, No Smile, extraordinaire. Magnifique Christophe Cravero au piano et l'extraordinaire Johann Schmidt à la batterie, accompagne le magique Étienne Mbappé. C'est un extrait de l'album Time Will Tell. Et puis on se retrouve dans quelques secondes avec l'astronaute Jean-François Clairvoy pour parler de vie extraterrestre.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'I.B.
Puisque l'inattendu nous attend toujours... inévitablement le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et on est en compagnie d'Étienne Mbappé qui vient de nous jouer un extrait de son album Time Will Tell. Super, super titre qui s'appelle No Woman, No Smile. Et puis, nous sommes en très, très bonne compagnie puisque nous avons avec nous Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, nous allons parler un peu de votre parcours pour faire un peu plus connaissance, vous connaître un peu mieux. Pour que les personnes qui nous écoutent, qui sont très nombreuses, des millions et des millions de personnes qui nous écoutent, apprennent à vous connaître un tout petit peu plus avant qu'on rentre, enfin avant d'entrer dans le thème de l'improvisation, qui est un peu le nœud de cette émission. Vous êtes quelqu'un de très discret. Je ne vous ai pas vu sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, pas trop. Hein.
Pas trop, oui.
Votre chemin est beaucoup moins médiatisé, on va dire, que quelqu'un comme Thomas Pesquet aujourd'hui. Je vous comparais un peu à Thomas Pesquet, mais j'espère que vous le... Ça va
c'est, bien pas... sûr, j'étais son sélectionneur et le coach pendant un an de la nouvelle promo. Et cette nouvelle promo d'astronautes, on leur met à disposition des community managers qui permettent en fait de beaucoup communiquer sur les vols pour faire mieux connaître nos programmes et l'Agence spatiale européenne.
Comment vous faisiez à l'époque, en 90, 95, 99?
Alors en fait, il n'y avait pas vraiment de communication, de plan de communication pour permettre d'expliquer au grand public les vols spatiaux, mais les chaînes de télé, les radios qui s'intéressaient ponctuellement disaient « Ah bah aujourd'hui, il y a un Français qui a décollé, hein, qui était parti dans la station Mir ». Donc les agences spatiales en Europe n'exploitaient pas l'image des vols habités et des astronautes pour se faire connaître. Mais maintenant, c'est le cas.
Mais du coup, ça suscitait du mystère. Enfin, je veux dire par là que c'est... Vous pensez quoi d'ailleurs, vous, toutes ces théories sur les extraterrestres, sur les martiens, etc. Parce qu'il y a plein de mystères autour de ça, plein de légendes. Vous connaissez bien l'espace. Vous êtes une des personnes qui s'est le mieux rapprochée de cette distance qui nous semble énorme finalement. Et est-ce que ce manque de communication à l'époque n'est pas un peu aussi à l'origine de toutes ces légendes ? Maintenant, on a moins ce mystère-là.
En fait, le manque de communication, il est dû au fait que c'est très difficile de communiquer sur quelque chose que les gens ne voient pas, ne touchent pas. L'espace est impalpable. Donc, si vous êtes fanat musique, vous allez dans un concert, vous l'entendez, la vraie. Vous êtes fanat voiture, vous allez dans un salon de l'automobile. L'espace, c'est impalpable. Donc, on peut qu'essayer de le décrire avec nos mots d'ingénieur, d'astronaute. Donc, c'est pour ça que Michael Collins d'Apollo 11 disait, il est temps qu'on envoie des poètes, des sociologues, des philosophes qui vont utiliser leurs propres mots. Mais...
Du coup, on envoie des patrons d'entreprises qui font du commerce sur Internet.
Oui, mais ils ne s'expriment pas trop sur leurs émotions parce que l'astronaute est assez pudique et c'est rare de rencontrer des voyageurs de l'espace ou des space flyers, comme on dit en anglais, qui disent vraiment ce qu'ils ressentent au fond de leur trip. Et pourtant, c'est ce que les gens veulent savoir. La première question posée aux astronautes, la plus souvent posée, c'est « On ressent quoi quand on est dans l'espace ?» Ils veulent savoir « Si j'étais à votre place ?» Je ressentirais quoi ? Mon corps me dirait quoi ? J'entendrais quoi ? Je verrais quoi ?
Mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'avec une différente apesanteur, quand on est dans l'espace, le cœur bat moins vite ?
En fait, le cœur bat un peu moins vite, parce qu'il a moins besoin de travailler pour irriguer le cerveau, qui est l'organe le plus grand consommateur de sucre et d'oxygène. Donc, c'est l'organe qui consomme le plus grand flux sanguin dans le corps humain. Mais sur Terre, le sang, quand on est debout ou assis, il a envie de descendre dans le bas du corps, c'est un liquide. En apesanteur, il reste là, donc le cœur bat moins vite et s'atrophie si on ne fait pas d'exercice régulièrement.
En général ou là-haut quand on est dans le...
Dans l'espace.
Dans l'espace, ouais.
Dans l'espace, c'est très important de faire du sport régulièrement dès que votre mission dépasse 15 jours, sinon les muscles s'atrophient.
Ah ouais. Et dites-moi, est-ce que vous, petit, vous rêviez d'être ce petit garçon dont je parlais en introduction qui voulait devenir astronaute ou pas du tout ?
Alors en fait, avec du recul, je me rends compte que quand j'étais petit, que je rêvais d'être astronaute, ce dont je rêvais vraiment... c'est d'aller dans l'espace, pas d'y aller pour exercer un métier. Astronaute, c'est un métier d'opérateur de machines, de scaphandres, de robotique, de vaisseaux spatiaux, d'instruments scientifiques. Mais ce dont je rêvais, en fait, en vrai, au sens propre et figuré, c'était d'aller dans l'espace pour voir la Terre de haut, pour flotter en apesanteur et vivre une expérience extraterrestre, au sens propre. Et puis, je l'ai fait, mais parce que j'ai eu un peu de chance, je l'ai voulu. Mais à la fin du processus, j'ai eu un peu de chance.
Oui, c'est une sélection qui est extraordinairement difficile. Enfin, finalement, c'est un
oui,
c'est des concours sur concours, des années d'études incroyables. En fait, j'ai l'impression quand je lis votre CV, enfin votre parcours, pardon, votre biographie, j'ai l'impression que vous avez pratiquement étudié toute votre vie.
Bah, les astronautes sont de toute façon de base des aventuriers, donc ils sont curieux. Et quand on est curieux, on lit, on étudie. On aimerait bien étudier toute notre vie d'ailleurs, mais on le fait maintenant sur notre temps libre.
Mais vous, est-ce que le rêve de l'enfant d'aller dans l'espace, il est toujours là après 20 ans, 30 ans d'études ?
Ah oui, mais c'est...
On n'est pas déçu finalement de se dire, bah, je ne m'attendais pas à me taper quand même toutes ces études, j'aurais bien aimé.
Mais je ne l'ai pas fait pour ça, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, notre professeur nous disait, quand vous serez grand, vous irez dans l'espace en vacances. Je l'ai cru. Après, adolescent, et puis au lycée et mes études supérieures, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Donc, ce que je voulais être, c'était télécommandeur de sondes interplanétaires. Je voulais travailler sur des machines, purs produits de l'intelligence humaine, qu'on envoie dans l'espace explorer les planètes, observer l'univers avec des télescopes, et qu'on télécommande depuis la Terre.
Voilà. Wow.
Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans mon premier job. J'ai travaillé sur mon premier projet, c'était la sonde franco-soviétique Vega qui a étudié Vénus et la comète de Halley.
Wow. Et pour vos propres voyages, finalement, dans l'espace, ça représente quoi ? C'est combien de voyages, combien d'heures de voyage, combien de tours de la planète vous avez fait, en fait ?
Alors, mes trois missions étaient en navette spatiale, qui est un vaisseau très complexe, la machine probablement la plus complexe inventée à ce jour par l'être humain, et au cours desquelles les missions sont très intenses et focalisées sur un objectif précis. Très différentes les trois. La première, dédiée à l'atmosphère. On volait sur le dos, sur une orbite très inclinée qui s'approche des pôles, pour que par le hublot du plafond et tous les instruments dans la soute de la navette, donc sur le dos, ces instruments faisaient face à la Terre, étudiaient l'atmosphère. Ma deuxième mission, pour ravitailler la station spatiale russe Mir. On s'accoste à une station dans laquelle il y a des Russes et un collègue américain qui attendent nos vivres pour manger, pour dormir, pour remplacer les équipements en panne, pour donner des sacs de couchage, des vêtements. Et mon troisième vol, aller réparer le télescope le plus mythique de l'histoire dans l'espace, le télescope spatial Hubble, qui était en panne totale. Donc là, on est monté deux fois plus haut, la plus haute altitude qui existe dans les vols habités.
C'est quoi,
c'est 600 km.
Wow.
La station, elle est à 400, mon premier vol était à 300. Il n'y a pas de vol habité au-dessus de l'altitude de Hubble, sauf ceux qui sont allés sur la Lune il y a 50 ans. Et quand vous touchez ce télescope avec un bras robotique, hein, pour le capturer, pour le fixer dans son berceau, après je déplaçais mes collègues en scaphandre pendant 9 heures d'affilée tous les jours, c'est toute la connaissance qui est entre nos mains. Et d'ailleurs, la veille du décollage, le patron de la NASA nous rend visite en disant « On vient de cracher une sonde sur Mars, je compte sur vous pour redorer le blason de la NASA.
Wow.
Et vous, Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute, n'oubliez pas que vous aurez 6 milliards de dollars entre les mains quand vous serez chargé de capturer le télescope qui était en panne, donc qui tournait sur lui-même. »
Ah, wow, wow, wow.
Mais on est entraîné, donc on est prêt.
Et tout a fonctionné.
Oui, c'était pas facile, mais les sorties dans l'espace ont battu tous les records, ont duré plus de 8 heures au lieu des 6 heures normales. Donc quand on commence à prendre sur les ressources du scaphandre, l'oxygène, l'électricité, le système de fixation du gaz carbonique, on commence à se dire est-ce qu'on les fait rentrer ou pas. Mais si on les fait rentrer alors qu'on n'a pas fini de fermer les portes du télescope, il est mort. Donc c'est tout le temps des décisions à prendre en permanence.
Quand vous parlez, là, j'ai l'impression d'être dans Gravity. Vous avez vu ce film?
Ah oui, alors dans Gravity...
Est-ce que pour vous, il est réaliste?
L'expérience sensorielle, je ne parle pas du scénario, qu'on peut découper en tranches, il y a des choses, ça s'est déjà passé comme ça, d'autres, si ça se passait, ça se passerait comme ça, il y a deux, trois trucs impossibles. Mais l'expérience sensorielle, la façon dont dans ce film, on vous fait voir l'espace, la Terre, de jour, de nuit, les vaisseaux dedans, dehors, la pesanteur, l'acoustique, c'est exactement comme
on
ça.
On a vraiment l'impression que c'est très réaliste, c'est fou.
Moi, les premières images, je regarde, mais c'est des images de ma mission. Je reconnaissais tout exactement pareil, tout pareil. Et puis d'un seul coup, on entend Matt Kowalski, le commandeur, qui met son MP3, sa playlist dans son scaphandre. Oh, il gâche tout.
Bon, bah, puisqu'on parle de playlist, nous, on va pas tout gâcher, puisqu'on a quand même juste un trio extraordinaire à nos côtés, en direct, puisqu'on est en direct ce soir sur Improbox. Johann Schmidt à la batterie, Christophe Cravero au piano, et ils sont là pour accompagner l'extraordinaire bassiste Étienne Mbappé sur un extrait de Time Will Tell, son album sorti le 15 octobre dernier. Et maintenant, on va écouter Not Time Yet. Thank you. Not Time Yet, une composition de Christophe Cravero au piano pour l'album d'Étienne Mbappé qui s'appelle Time Will Tell, qui est sorti donc en octobre. Et là, vous êtes accompagné par Johan Schmidt à la batterie. Alors, Jean-François Clairvoy, on est dans une émission qui s'appelle Improbox. Et dans cette émission Improbox, le but de cette émission, c'est qu'à la fin de l'émission, à un moment donné, il y a une rencontre entre vous et nos invités musiciens autour d'une improvisation. Alors, on en parlera un peu plus longtemps, mais là, d'abord, dans cette deuxième partie d'émission, je voudrais approfondir un peu la place qu'a l'improvisation dans votre métier. Quelle place peut avoir l'impro dans un voyage dans l'espace où tout est millimétré, appris à la lettre pendant des années et des années, tout est tellement spécialisé. Déjà, rien que le décollage qui est effrayant, on se dit, il ne peut pas y avoir une seule milliseconde, un seul millimicromètre d'improvisation là-dedans. Où est-ce que je me trompe?
Alors oui et non. Parce que avant le décollage, il n'y a pas un micron laissé à l'improvisation. On essaie de penser à tout ce qui peut arriver. Et pour tout ce qui peut arriver, on a des procédures. Et on s'entraîne longtemps. On s'entraîne beaucoup, on passe plus de temps à nous entraîner qu'à faire la mission. Mais bien sûr, personne ne peut prédire l'avenir. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, il ne s'agit pas de le prédire, mais de le rendre possible. Donc, il arrive dans l'espace des situations auxquelles personne n'avait pensé. Et là, c'est 100% de l'improvisation.
Donc, le rêve, il commence une fois que la mission démarre.
Ouais.
Mais avant, il n'y a pas la place au rêve. C'est que de la prévention.
Bah, c'est, comme quand vous demandez à Neil Armstrong, alors c'était comment sur la Lune, il répond, I was just doing my job. Et c'est vraiment ça. On part, on fait notre job. Mais lorsque le premier équipage est allé vers Skylab, la première station spatiale américaine, un panneau n'était pas déployé. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont dit, bah, toi, tu vas sortir à moitié de la capsule, tu vas tenir les panneaux avec ta main. Le deuxième, tu lui tiens les pieds à l'intérieur. Et le troisième, avec le manche de pilotage, tu pilotes la capsule pour que ils tirent sur le panneau, et c'est comme ça qu'ils l'ont déployé.
Mais là, on est vraiment dans Gravity, là.
Oui, oui.
Parce qu'il y a même une scène qui ressemble vraiment spécifiquement
oui,
à ça.
Oui, bien sûr. C'est 100% improvisé. Mais c'est improvisé dans le cadre d'une expérience acquise avec des tas d'erreurs dont on a appris les leçons dans le passé qui fait que on y arrive.
Mais c'est tellement un voyage dans l'inconnu qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il n'y ait pas quand même presque que de la découverte. Chaque seconde, il y a de la découverte. La découverte, l'imprévu, l'impro, c'est ça. C'est faire face à l'imprévu. Donc il n'y a pas...
Le premier inconnu, c'est le futur. Chaque jour, quand on se lève, moi je me dis, je vais explorer l'inconnu aujourd'hui. Alors on sait à peu près ce qu'on va faire. Je savais ce matin que j'allais venir ce soir, mais je n'ai pas tous les détails. Et puis plus on regarde un peu loin dans le futur, plus c'est inconnu. Donc...
Vous savez, il y a un moment où il y a quelques... Bon, on s'est rencontrés cet été. Et je vous ai dit, après notre rencontre, j'ai tellement de questions à vous poser. Et je vous ai demandé l'autorisation de vous envoyer une ou deux questions par WhatsApp. Et vos réponses, je vous jure... Mais Jean-François Clairvoy, en fait, bon, pour que les personnes qui nous écoutent prennent conscience un peu de la chose, moi j'ai posé une question, par exemple, qui était, est-ce que c'est vrai que... à une certaine vitesse, peut-être la vitesse de la lumière, enfin j'en sais rien, ou quand on se rapproche des trous noirs, est-ce qu'il est vrai que le temps s'arrête et qu'il est plus lent que lorsqu'on est sur Terre? Et vous m'avez envoyé deux ou trois WhatsApp de plus de 10 minutes.
C'est dur.
Et je suis resté, mais bouche bée, c'est-à-dire je suis rentré dans un film de science-fiction, j'étais comme dans un rêve. Je me suis dit, mais quelle poésie il y a dans toute cette science, c'est incroyable, ça nous dépasse tellement... que c'est même plus de la science, c'est de la poésie.
Ah oui, mais de toute façon, les mathématiques, quand vous aimez les mathématiques, quand vous vous sentez l'esprit mathématique, quand vous regardez des équations comme E égale MC2, très simple. L'équation Newton, F égale MA, très simple, et c'est toute la physique qu'il y a derrière. Alors, après, il faut s'en imbiber, mais c'est vrai que quand les lois de la physique permettent de prédire quelque chose qu'on n'a jamais observé ou des particules qu'on n'a jamais détectées et que
c'est ça, 10 ans, hypothétique, en fait.
5 ans plus tard, on les trouve.
On vérifie.
C'est génial. C'est-à-dire que l'intelligence humaine est capable de se projeter dans des mondes imaginaires qui font avancer la science et derrière la connaissance. Et avec la connaissance vient la sagesse. Et avec la sagesse vient être moins enclin à faire la guerre. Donc c'est pour ça qu'il faut éduquer et Restez curieux.
Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, si j'étais à 600 km de la planète Terre et que je la regardais, j'aurais envie de sortir un bouquin et de écrire de la poésie, par exemple, parce que
mais c'est
d'inventer de la prose.
On appelle ce phénomène l'overview effect, qui est un phénomène qui bouleverse tous les astronautes à la vue de la Terre, parce que on voit à plusieurs milliers de kilomètres autour de nous, le décor défile très vite, c'est très beau, et c'est sur un fond noir vide à l'infini du cosmos, et on tombe amoureux de la planète, et on se pose des questions sur la création. Et on compare la planète à un vaisseau spatial, parce qu'on est éduqué, on est formaté à ça. Donc, mais la Terre est l'œuvre d'art la plus belle jamais produite par le plus grand des artistes de l'histoire. Donc, qui a créé ça, quoi ? On ne sait pas.
Ça vous manque ?
Ah, vous savez, c'est pas une histoire de manquer. Manquer, c'est quand quelque chose vous est dû, puis finalement, vous ne l'avez pas au dernier moment. Mon premier commandant de bord nous disait, on ne sait jamais si on revolera pour des raisons programmatique, budgétaire, médical, on n'est jamais sûr. Donc chaque vol, profitez-en au maximum, vraiment imprégnez-vous, réfléchissez, mais écrivez. Et puis j'ai eu la chance de voler 3 fois sur des orbites très différentes. J'ai survolé le Liban, j'étais le spécialiste des photos parce que j'ai beaucoup voyagé, mon père était militaire et donc tous les endroits où j'ai vécu, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre des photos et j'ai vécu 3 ans à Beyrouth pendant mon adolescence, qui ont marqué d'ailleurs ma vie fortement parce que c'est un pays tellement beau où j'ai développé mon goût pour l'exploration, pour la nature, pour... Je skiais le matin, on se baignait le soir et puis on mangeait tellement bien, on était bien accueillis.
Et on est parti sur le Liban.
Voilà, oui, je ne pouvais pas m'en empêcher parce que c'est... J'ai parlé d'ailleurs à la télé de ces spectacles du Moyen-Orient et des pyramides aussi, et d'ailleurs qui m'ont valu le lendemain d'être invité par l'ambassadeur d'Égypte. Il dit, ah, je vous ai entendu parler des pyramides, venez, venez. Et puis je suis allé avec ma femme visiter l'Égypte.
Ah, mais vous êtes un voyageur en fait, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vous manque ? Parce que je peux comprendre que vous profitiez vraiment de ce moment-là, mais il y a un truc où je me dis, si j'étais à votre place, je me dirais, mais il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que je ressens là maintenant. Il n'y en a même pas autant que les 10 doigts de nos deux mains.
Ah oui, effectivement.
Vous êtes combien à avoir vécu ça dans l'histoire ? C'est quand même...
On est 571 hommes et femmes en 60 ans.
En 60 ans, ouais.
Et c'est le fait qu'en plus, on regarde la Terre en flottant en apesanteur, on ne sent plus son corps. On oublie qu'on a un corps.
La pesanteur, c'est quand même un truc de gosse, ça aussi. Quand on vous voit, voilà, les astronautes en train de voler et de vous amuser dans la pesanteur, on se dit, mais ça y est, c'est des gosses. C'est des enfants, ils sont en train de s'amuser. On voit des enfants.
C'est comme dans notre avion R0G. Donc, j'ai créé ces premiers vols paraboliques en Europe il y a 30 ans. C'est des trajectoires en avion de ligne énormes dans lesquelles on ne met que quelques personnes et on recrée la vraie apesanteur. On met l'avion littéralement sur un arc orbital. Tous, quel que soit leur âge, leur statut social, etc., retournent en enfance et ouais, ont des cris de joie comme des gamins. Et je leur prédis à l'avance. Mmh. Et puis on filme, après on leur montre. Ben oui, oui, c'est... Et dans l'espace, c'est ça. Alors, le fait qu'on a cette expérience visuelle de la Terre, en ayant l'impression d'être juste une conscience immatérielle flottante et de le partager avec d'autres à bord.
Et on est si petit.
C'est ça. C'est...
On est si petit.
Vous savez, les premiers mots du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Je me sens bien et qu'est-ce que c'est beau. S'il avait dit je me sens pas bien et c'est moche,
ça changerait quand même beaucoup de choses. Bon, pour cette dernière, parce que ça passe tellement vite, vous savez, il est déjà 8h moins le quart, ça me déprime. À chaque fois, c'est pareil. Jean-François Doucan. Jean-François Doucan. Oui, je vous appelle comme je veux. Mais non, mais attendez, il y a un truc quand même Jean-Charles, je sais très bien que tu t'appelles Jean-Charles. Mais tous les gens de TSF savent que vous vous appelez Jean-Charles. Mais comme je suis avec Jean-François, Clairevoix, je confonds. Mais Jean-Charles Doucan, on peut pas faire une émission de 4 heures, un Probox, 4 heures d'émission, comme ça, toutes les semaines.
Une spéciale ?
Ouais, non, toutes les semaines. Moi, je voudrais toutes les semaines 4 heures. Parce qu'à chaque fois, c'est frustrant, on en arrive, voilà. Déjà moins le cas. L'année dernière, à chaque fin d'émission, donc il y avait cette fameuse rencontre qu'on faisait, et puis je demandais à mes invités, à tous mes invités plateau, de nous proposer des idées musicales. Cette première année, c'était tous mes invités, chaque mois, c'était mes cobayes finalement. Mais là, je fais évoluer un peu les choses parce que je me rends compte que c'est pas évident de proposer à un invité qui n'est pas musicien professionnel, d'un seul coup, de proposer quelque chose comme ça, qui sorte de nulle part. Et que cette idée-là, ensuite, d'ailleurs, inspire notre invité musique, nos invités musique. pour développer et faire une improvisation en direct sur TSF. Donc je me suis dit, cette année, je vais faire un truc un peu différent, je vais changer. Donc vous êtes mon premier cobaye de l'année. Je vais vous poser quelques petites questions, je vais mettre des petites notes, comme ça. On va voir quel est votre niveau musical. Et on va un peu estimer, voilà, et ça va vous encourager à créer. Vous allez voir, c'est plus facile. Alors, on va commencer par deux, trois petites questions techniques. D'abord, culture générale. Est-ce que vous pouvez me citer trois musiciens ou artistes que vous écoutez, pour qu'on sache un tout petit peu quels sont vos goûts?
Alors, j'ai beaucoup écouté Elton John, En Orbite, Patricia Cass, et Gainsbourg.
Gainsbourg, bon.
Jonas.
Vous avez un point là-dessus. Ça va, c'était facile jusque-là. Est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument de musique dans votre vie? Est-ce que vous avez des enfants? Je ne sais pas. Est-ce que vos enfants en jouent? Il faut qu'il y ait au moins une personne dans votre famille proche qui joue de la musique pour avoir mon petit point.
Ma fille joue du piano.
Ah.
Et mon frère jumeau, lui est doué parce que sans avoir vraiment appris la musique, on lui met un instrument dans les mains. Et puis rapidement, il produit quelque chose. L'ocarina, la guimbarde, la flûte.
Et vous?
Donc j'ai touché un peu à tout ça, mais j'arrivais pas à sortir quelque chose de correct.
Bon, parlons de théorie musicale. Est-ce que vous connaissez le nom des notes de musique, Jean-François Clairvoy?
Je pense, parce que je joue avec une application sur mon téléphone pour voir si j'arrive à les avoir.
Alors,
juste.
En montant Do, Ré...
Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Et, vous avez, et en descendant, vous avez ou pas?
Ah non. Non, je peux, mais
vous
en concentrant.
Vous avez un demi-point là-dessus. si je vous dis deux croches, est-ce que vous savez que c'est égal à une noire ou à trois doubles croches?
Ah non.
Non, vous avez zéro là-dessus. Zéro pointé quand même.
Alors,
pour quelqu'un qui a fait 40 ans d'études.
J'ai de bons amis musiciens qui ont même eu des Oscars pour des musiques de films qui n'ont jamais fait de solfège de leur vie.
Je suis complètement d'accord avec vous. Et parmi les meilleurs musiciens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, la plupart des meilleurs étaient des autodidactes. Et donc on est complètement d'accord là-dessus. Bon, je vais essayer un truc. On passe à de la pratique maintenant. Parce qu'en effet, l'autodidactie, il n'y a rien de mieux. Si vous chantez juste ou pas, si je vous chante une note, vous pouvez la répéter. Si je fais par exemple... Très bien, vous avez l'oreille... vous avez peut-être pas l'oreille absolue, mais l'oreille relative. Très bien. Est-ce que si je fais... Très bien. Là, vous avez quand même deux points. Vous rattrapez bien le truc. On va faire un petit exercice de rythme. Vous êtes prêts? Si je fais ça... Tin, 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 tin. Très bien, vous avez un point. Très bien, jusque là ça va bien. Si je fais un peu plus compliqué, on n'est pas loin. Allez, je vous donne le point. Et puis dernière question pour voir un peu si vous suivez bien les actualités musicales. Pas du tout d'ailleurs. Vrai ou faux, une clé de sol au Moyen-Âge, permettait d'ouvrir une trappe au niveau du sol dans les vieux conservatoires musicaux où étaient stockés tous les instruments de musique afin de ne pas attirer les foudres du Vatican. C'est vrai ou c'est faux?
J'aimerais bien y croire, mais j'ai l'impression que c'est faux.
C'est complètement faux, on est complètement d'accord. C'est une clé de sol, c'est un repère sur la portée à partir duquel on détermine les positions des autres notes de musique. Évidemment, cette invention, c'est une trouvaille en fait attribuée à un moine italien, Guido d'Arezzo. Au départ, c'était un G majuscule à l'époque médiévale. Et puis, au fur et à mesure, le G est devenu une clé de sol parce qu'on s'évertuait à dessiner un G magnifique. Les anglo-saxons gardaient d'ailleurs ce langage. Le G, ça correspond au sol, le F au Fa, le E au Mi, etc. etc. Voilà, c'était un peu de science. Bon, Jean-François Clairvoy, le moment est venu de passer à cette improbox, improvisation de votre part. C'est à vous maintenant de proposer une idée qui sortent de vous complètement. Ça peut être rythmique, mélodique, un gimmick, peu importe. Et nos amis ici, que sont Étienne Mbappé, le bassiste magicien Étienne Mbappé, qui est accompagné par deux autres magiciens, Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt à la batterie, vont prendre votre idée et la développer là, tout de suite, en direct sur TSF. C'est le principe d'Improbox.
Alors, l'idée qui me vient, c'est que j'aimerais que vous me proposiez une production musicale qui m'évoque... ma mission spatiale, c'est-à-dire le décollage, la séparation des tâches, le largage en orbite, le flottement en apesanteur, la vue de la Terre et de temps en temps des petits météorites qui...
Ouais, tout ça en 4 minutes, hein, les gars.
Donc, on est...
Alors regardez comment ça va se passer, Jean-François, parce que c'est quand même moi qui décide.
D'accord.
Non, c'est super, parce que l'idée, elle est géniale, parce que ça inspire, évidemment. Donc, vous allez proposer une idée musicale. Hein, faut que vous la proposiez quand même. C'est-à-dire, oui. Faut que vous sortiez
un son,
quelque chose musicalement, un rythme, un son, etc. Ensuite, on va les laisser réfléchir deux petites minutes à ce qu'ils peuvent créer à partir de ça. Et ensuite, c'est parti, ils vont se lâcher. Donc, allez-y.
Propulsion à poudre, un cheval au galop. C'est très grave et ça nous secoue. Voilà.
Ça, c'est de la batterie, les gars. Johan, si, ah ouais, la basse aussi, il y a une batterie basse là-dessus. Refaites-le une fois, comme ça, on s'inspire bien, que tous nos auditeurs prennent bien conscience de votre demande spécifique là-dessus.
C'est par onomatopée un peu. Hein, c'est
très conceptuel, hein, c'est abstrait.
C'est de la techno, en fait. Mais c'est très bruyant.
Très, très, très bruyant. Il y en a un qui est content, là.
Et l'énergie acoustique fait vibrer le torse des spectateurs à 5 km.
Bon, alors écoutez, regardez, ce qui va se passer maintenant, parce qu'il faut quand même que nos auditeurs comprennent ce qui est en train de se passer. Vous êtes sur la radio TSF Jazz. Nous sommes avec deux invités. Étienne Mbappé, qui est notre invité musicien, qui est accompagné par deux autres musiciens que sont Christophe Cravero au piano et Johan Schmidt à la batterie. Et puis nous avons un invité, Jean-François Clairvoy, qui est un très grand astronaute et grand spécialiste de l'espace. Je peux résumer ça comme ça, hein, vous m'en voulez pas. Et nous avons donc partagé un peu moins d'une heure ensemble. Et le principe de cette émission Improbox, c'est de demander à Jean-François Clairvoy de nous faire une proposition musicale. Mais là, elle est quand même très abstraite, faut avouer, et très conceptuelle. Et de cette idée-là va naître dans 2 minutes une improvisation en direct ce soir dans les studios de TSF.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Donc voilà, on est en direct. Et puis Jean-François Clairvoy, vous nous avez proposé une idée très conceptuelle. Hein, c'est vos inspirations, des inspirations de l'astronaute que vous êtes, qui a voyagé. Et qui ramène avec lui des sons. Vous nous avez proposé ce concept d'un son complètement abstrait. Et maintenant, Johan Schmidt, Christophe Cravero et Étienne Mbappé, vous allez nous transformer ça en musique et c'est en direct sur TSF. Étienne Mbappé à la basse, Christophe Cravero au piano, Johann Schmidt à la batterie. Cette improvisation, j'étais en train d'y penser pendant que vous jouiez, pourrait tout à fait être la bande originale d'un film qui raconterait votre vie finalement.
Ah oui, vraiment, bravo, hein, parce que entre le lancement, l'extinction des moteurs, on flottait, puis après on réallume les moteurs pour faire du rendez-vous spatial. Je m'y voyais là. Je me voyais dans mes missions à quel moment exactement ces morceaux de musique passaient.
Voilà, c'était ça l'improbox, c'était cette rencontre entre vous et je suis ravi que ça ait fonctionné.
Il faut les amener dans l'espace.
Voilà, premier concert dans l'espace. Jean-François Clairvoy, quel bonheur de vous avoir reçu dans cette improbox. Vous êtes un vrai passionné, un vrai voyageur dans l'espace et dans le temps. Avec vous, le temps s'arrête. Même si on n'est pas dans un trou noir ou ni à la vitesse de la lumière, je pourrais vous écouter des heures parler de votre passion, de vos passions et de ce qu'il y a de commun entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. J'ai vraiment ce sentiment en vous écoutant parler que finalement le point commun entre votre métier d'astronaute et le nôtre, de musicien, d'artiste, c'est le rêve. Notre fascination pour ce que le futur nous réserve et puis pour la magie de tout ce qu'on ignore finalement encore. Le futur, voilà. Par contre, Jean-François Clairvoy, la question « Qu'y a-t-il au-dessus de nous ? Qu'est-ce qui régit cet équilibre solaire, astral, cette gigantesque orchestration de l'univers ?» Malgré toutes vos années d'études et de recherches, Jean-François Clairvoy, j'ai le regret de vous dire que la réponse est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Pour moi, c'est l'amour. Ah, l'amour. Jean-François Clairvoy, c'était si simple. Vous voyez, vous auriez pu économiser 40 ans d'études, faire du tuba, du xylophone ou même jouer de l'ocarina de votre frère. Ben voilà. Bon allez, j'arrête avec mes bêtises. C'est juste que la musique a parfois répondu à cette question. Qu'y a-t-il au-dessus de nos têtes? Des nuages, des arcs-en-ciel, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Et ce, de façon finalement très pertinente, avec beaucoup de magie, de rêve. Voilà, j'avais envie de terminer sur cette réponse-là. L'amour qui est la réponse à toute réponse existentielle. Et puis avant de vous donner le titre auquel j'ai pensé pour vous remercier d'avoir été avec nous, je voudrais dire merci. Merci à Étienne Mbappé d'avoir été avec nous ce soir en direct pour cette géniale improvisation et ces trois lives accompagnés par Johann Schmidt à la batterie et Christophe Cravero au piano. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Je rappelle, nouvel album Time Will Tell est disponible partout depuis le 15 octobre. Et puis je vois des dates de concerts. Alors du 10 au 13 novembre au Sunside, le 19 au Mans, au Chorus, 9 et 10 à Monaco, 15 à Toussaint, etc., etc., etc. Ravi que vous ayez été avec nous en direct ce soir. Merci à toute l'équipe également TSF, Jean-Charles Doucan, et non pas Jean-François Doucan, bien entendu, à la réalisation. Merci à Pia Duvigneau et à Sarah Benamou pour l'organisation. Merci à Devin Simon à la sonorisation. Merci à Eric Holstein au son. Merci à Samira à Chaban pour la vidéo, puisqu'on était en direct également sur Facebook. Et puis à toute l'équipe de TSF qui vont devoir encore me supporter toute cette année. C'était donc Ibrahim Malouf. Voilà, c'était moi avec vous et à l'improbox numéro 11, la seconde de cette saison. Encore une fois, merci Étienne Mbappé. Merci Jean-François Clairvoy. Bonne soirée à tous les auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 17 novembre pour l'improbox radio numéro 12. Et puis en attendant, la suite des programmes de TSF, je vous invite à voyager donc au-dessus des nuages, au-dessus de cet arc-en-ciel, dans ce ciel plein d'amour et de réponses évidentes à nos questions existentielles, Somewhere Over the Rainbow, interprété par Ella Fitzgerald. Voilà, bonne soirée à tous. There's a land that I heard of once in a lullaby. Really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere
Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Then oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why oh, why can't I?